Vous écoutez France Culture.
François Strossard et la belle équipe des Papous pour la récré de France Culture. Au menu, le jeu des suppositions, suivi d'un inventaire. Avec quel personnage de fiction aimeriez-vous partir en week-end, Odile Conseil ?
Moi, je partirais avec Mary Poppins à la plage. Elle aurait évidemment son fameux sac de voyage, d'où elle sortirait un porte-manteau pour y accrocher nos habits, des draps de plage, des maillots de bain. Et bien évidemment, après ça, on irait faire un tour de manège et les chevaux s'en détacheraient pour aller galoper dans les champs.
Ce serait beau, mais beau, beau. Puis le ballon de la finale du mondial pour un état de choses par toute la troupe. Et révisons la philo avec Malebranche pour la dissertation du dimanche. Sujet Patrice Comment pour Patrick Beignet et Hervé Letellier.
Eh bien, et ce sera ma conclusion, car sinon cet exposé n'aurait plus la forme d'un croissant sur une assiette ronde. Cela dépend de la forme. Par exemple, le zéro a la forme d'un trou, mais le trou a aussi la forme d'un zéro, ce qui nous ramène à Malebranche, à la question initiale et à ma note potentielle pour cet exposé.
Ensuite, le DLA au diagnostic à l'aveugle, un piège littéraire tendu par Eva Almassy à trois experts papous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58, une émission que vous pourrez podcaster pendant un an, réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr, à la page des papous dans la tête du jour, page sur laquelle vous avez tout loisir de poster vos remarques, questions, suggestions, rubrique commentaires. Et pour l'heure, place au jeu des suppositions ou suppose que tu t'appelles. Avant toute chose, choisir la personne à qui le récit sera dédié. Et puis, imaginer un nom, suppose que tu t'appelles blablabla, et une histoire qui s'achèvera par un bon calembour sur le dînon culturel. Naturellement, ce calembour, c'est mieux. En piste, Odile Conseil et Jacques Vallée. Qui est l'heureux destinataire de l'histoire, Odile ?
Eh bien, disons que ce serait Lucas. Ah. Et je dirais à Lucas, suppose que tu t'appelles Beck.
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 Ça vous plaît, ça, Beck ?
Ça rime avec un grand écrivain français, c'est ça ?
Henri ? Henri Beck,
Henri
peut-être.
Beck. Bravo, c'est à lui que je pensais.
Pas Philippe Beck.
Tu coules des jours paisibles de retraité à Saint-Tropez. Les mots croisés, le pastis, la sieste, la pétanque, le pastis, tout cela avec ton vieux pote Charles. Vous faites une sacrée paire tous les deux. À la pétanque, vous êtes les rois. Pour raconter des histoires d'hier, de votre guerre, de la résistance, vous êtes intarissables. Et pour ce qui est de la rigolade, vous n'êtes pas les derniers. Bref, tout est parfait. Non, tout serait parfait, n'étaient ces yachts gigantesques et tape à l'œil qui mouillent dans le port et vous bouchent la vue midi et soir à l'heure de l'apéro chez Sénéquier. Ces yachts qui, aux anciens résistants que vous êtes, sont une insulte, l'étalage d'une richesse indécente, forcément mal acquise, un signe du mépris des puissants d'aujourd'hui, de ceux qui ont gagné la guerre économique. Et surtout, ça vous gâche le paysage, ça vous obstrue l'imagination, à vous qui aimez tellement deviser en contemplant la mer, toujours recommencer. Ça, c'est Charles qui le dit, il aime les bons mots. La vraie phrase, c'est « Tu vois, Beck, l'apéro, c'est comme la mer, toujours recommencer ». Charles, qui a vraiment des lettres, dit aussi « Homme libre, toujours tu chériras la mer et la mer bière aussi ». Il faut vous dire qu'il vient du Nord, Charles, ça explique beaucoup de choses. Au début, vous n'avez rien dit contre les yachts, mais un peu à la fois, ça vous a fait râler, puis peu à peu, ça vous a littéralement enragé. Maintenant, Beck, il est temps d'agir, a alors dit Charles, on prend le maquis. Et voilà comment, la nuit dernière, une nuit sans lune propice aux actions commando, vous avez été percé des trous. Pas des petits trous, non, de bons gros trous dans les coques de tous les bateaux à quai. Et voilà pourquoi ce matin le port est dégagé, la vue aussi, on respire, on admire. Alors Charles se lève, lance les bras au ciel. Vive le Québec, libre.
Oh, mais c'est hautement culturel, ça.
C'est politico-culturel, je dirais.
Je vous ai vu froncer les sourcils intensément, Jacques Jouet, vous essayez de deviner, et alors
Non.
Non, elle était trop dure.
Vous êtes resté à quai.
Puis en plus, ça ne se terminait pas par Bec, c'était juste avant.
Vive donc le quai, Bec, libre.
Eh oui.
Eh oui.
Houellebecq, il était là.
Ah, c'était Houellebecq, le grand écrivain du début, j'y ai absolument pas pensé.
C'était Steinbeck.
Il y avait Steinbeck. Oui. Pourquoi je n'ai pensé qu'à Henri Beck, l'auteur de La Parisienne?
Parce que vous en êtes une.
Probablement. Voilà. Alors on passe à Jacques Vallée. Jacques Vallée, le sourire malicieux, il sait qu'il va nous tendre un piège, qu'on va se poser des questions c'est et vrai. Qu'on ne trouvera pas avant sa chute. À qui adressez-vous votre histoire?
À Lucas. Oui. Je vais lui adresser des vers ugoliens. J'espère être ugolien dans mon adresse.
Ben, il est très gâté aujourd'hui, Lucas.
Lucas, imagine un instant que tu t'appelles Ion.
Ion.
Oui, ion comme l'atome et ses électrons. Mais que peux-tu savoir de ce savant problème? Car ton seul intérêt, mon cher Ion, c'est toi-même.
C'est pas faux, hein.
Oui. Tu te destines, Ion, au grand combat de l'art. Te sentant traversé par des souffles épars, tu as choisi bien jeune, adorant la nature, de consacrer ta vie à l'art de la peinture. Mais il ne suffit pas de manier la couleur, de rêver dans les bois ou d'admirer les fleurs. Tu ne peux rien apprendre en cette solitude. Soumets-toi, dit ton père, à la sévère étude. En premier, le dessin, que tout peintre choya, le secret d'un Rembrandt, d'un Callot, d'un Goya, la virtuosité qu'a jamais en louange du jeune Raphaël et du vieux Michel-Ange. Ainsi, Ion, on te met, toi le sauvage enfant, entre quatre grands murs, chez un prof compétent, qui t'apprend l'art des traits et l'art des éclairages, et avec fermeté fait ton apprentissage. Sûr que cet atelier toujours en toi demeure, là, le silence, l'art, l'étude oubliant l'heure, tu refais mille fois des croquis de fenêtres où la lumière joue et doucement pénètre. Parfois, trop maladroit, tu te mets en colère et tu verses énervé quelques larmes amères quand le maître te dit qu'il faut faire attention. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu te rebelles, Ion? C'est dans ces moments-là.
Mais elle est bien. Hein.
Il y aura mieux encore.
Mais ce n'est pas la chute encore.
C'est dans ces moments-là que ton maître paisible te réprimande fort et devient irascible. Il se met en colère et contre toi tenant, furieux, te sermonne, écrit tout frissonnant. Le trait, c'est tout, mais ce n'est rien. Il faut l'idée, il faut donner à voir, de soleil inonder cette fenêtre comme un temple doré. Que fais-tu du rideau, presque à demi tiré? Vois des raies de soleil fusant dans la blancheur. Tu ne suggères pas l'impression de fraîcheur. Regarde ce tracé, c'est moche, c'est trop sombre. Tu te dois de montrer les raies, Ion, et les ombres.
Oh là là, mais Hugo, quelle beauté!
Hugo.
Oui.
Hugo.
Vous voulez bien lui offrir votre texte dédicacé, s'il vous plaît, Jacques Vallée, non?
Oui, parce qu'il y a des vers d'Hugo, des rayons et des ombres. Les rayons et les ombres, c'est son apprentissage aux feuillantines. Surtout une ode au sculpteur David. Donc, il parle de l'art et tout ça. Donc, voilà. Je me suis dit, il fallait parler peinture.
Donc, c'est un patchwork qui a du très bon Vallée et du très bon Victor Hugo mélangé.
Deux vers d'Hugo.
Ah oui. Au début, ce n'était pas très flatteur parce que vous étiez cerné comme un personnage qui ne pense qu'à son nombril.
Mais comme tout artiste.
Mais exactement, c'est ce que j'allais dire en conclusion. Il ou elle catalogue, répertorie, classe. Les impressions, les souvenirs pour inventaire. Cela va à des bonnes raisons de se méfier des autres. Ne jamais oublier que les autres, c'est rien que des sales types, comme l'écrit Jacques Bertrand. De l'inventaire des bonnes raisons de se méfier, donc, à celui des objets cassés, volontairement ou non, en passant par la liste de ce que vous emportez dans votre valise et dont vous ne vous servirez jamais, quoi qu'il arrive. L'intitulé du jour, avec quel personnage de fiction aimeriez-vous partir en week-end? On a le choix. Un inventaire par Patrice Delbourg, Odile Conseil, Pascal Fioretto et Lucas Fournier qui est le premier à dire. Une envie, Lucas.
Moi, j'aimerais beaucoup inviter Madame Bovary à venir passer un week-end à Paris avec moi. Je l'emmènerai à l'opéra, elle prendrait le bateau mouche et on irait dans les grands magasins. Et ça lui ferait beaucoup de bien.
C'est probable, oui. Vraiment. Vous avez la même chose, Patrice Delbourg ?
Ah oui, je partirais bien avec Madame Bovary au casino d'Honfleur pour avoir le plaisir de s'ennuyer ensemble, qu'elle me parle avec dégoût de son mari, tout en contemplant sa carnation opaline.
Mmh. Ah oui, mais ce n'est pas la même chose.
Non.
Paris,
non.
Honfleur, non. Pas du tout pareil.
Ce n'est pas incompatible.
Oui, mais il faut qu'elle nous réserve deux week-ends.
Oui, oui, Pascal Fioretto.
Ah ben moi, mon rêve absolu, c'est un week-end à New York avec l'homme araignée. Si possible, incarné par Tobey Maguire, d'ailleurs, si je peux choisir.
Oui, mais bien sûr, vous pouvez choisir.
Voilà. Donc, découvrir enfin New York vue du ciel. Dans les bras de l'homme araignée, descendre la 5e avenue suspendu à un fil, rentrer à mon hôtel par la fenêtre, dézinguer un ou deux super méchants au passage, et puis, vieux fantasme, visiter la statue de la liberté en commençant par les oreilles. Et là, je pense qu'il n'y a qu'avec l'homme araignée que je pourrais faire ça.
Ah, vous êtes un aventurier, Pascal. Qui l'eût dit, qui l'eût cru ? Odile, oui ?
Mais moi, j'hésite beaucoup entre Superman ou Spider-Man, en fait, parce que les deux me semblent très bien pour voler et faire tout ce que Pascal vient de raconter. Mais j'aimerais bien faire un essai avec chacun d'eux pour voir lequel est le plus confortable. Parce que d'abord, comment s'installerait-on avec eux ? Est-ce qu'on les chevaucherait comme un cheval ? Est-ce qu'on serait dans leurs bras ? Dans quel sens ? Etc.
C'est important, oui.
Et ça me semble essentiel de faire cet essai pour voir lequel est le plus confortable et excitant à la fois. Il faut les deux.
Lucas.
Moi, j'aimerais bien emmener Geneviève Tabar. Vous savez, l'héroïne de Baiser volé.
Geneviève Tabar.
Alors, où ça, j'en ai pas la moindre idée, parce que faire les magasins, elle en a un, c'est pas la peine. Pas à Paris, elle connaît, pas au cinéma. Oh, en fait, non, je me disais que peut-être ça serait aussi bien de partir avec Antoine Doinel, parce que lui, au moins, il a de la conversation.
Pascal.
Moi, c'est un Noël en Scandinavie que je voudrais passer, mais pas n'importe où, chez Fanny et Alexandre.
Ah, les deux,
courageux. Hein.
Ah, pas forcément, parce qu'il y a quand même, il y a le fameux oncle pétomane, il y a le rabbin magicien, il y a la grand-mère permissive, enfin très scandinave, quoi. Et puis il y a aussi quand même les grands banquets qui sont très agréables et les magnifiques arbres de Noël. Et d'ailleurs, dans la foulée de la Scandinavie, il y a un autre personnage avec qui je passerais bien un week-end, mais là, ce serait plutôt un stage. Ce serait un stage de cuisine chez Babette. Pour essayer de reconstituer ce fameux festin. Et notamment la fameuse soupe aux tortues et aux œufs de caille, dont je rêve de connaître les secrets depuis très longtemps.
Patrice Delbourg.
Moi, j'emmènerais bien Jeff aux îles Marquises. Jojo aussi, et puis Madeleine, les vieux, les timides, et la fanette, et tout. Je suis sûr que le grand Jacques n'a pas eu le temps de leur faire visiter.
C'est probable, oui. Lucas ?
New York. Le Guggenheim, Saint-Pétersbourg, l'Ermitage, Florence, les Offices, Paris, le Louvre, avec Arsène Lupin. Je suis sûr qu'on rapporterait un souvenir de voyage.
Pascal Fioretto, avec quel personnage de fiction aimeriez-vous partir le temps d'un week-end ? Et où ?
Avec Oncle Picsou, chez Oncle Picsou. Et je passerai la plupart de mon temps, je pense, dans la fameuse piscine de pièces d'or.
Ah oui.
C'est quand même un rêve que j'ai depuis l'enfance. Et puis bon, si vraiment il faut en sortir, j'aiderai Oncle Picsou à trouver des idées pour ruiner Gripsou, pour faire des blagues à Donald. Et évidemment, à la fin du week-end, comptez sur moi pour glisser dans mes chaussettes quelques lingots d'or.
À ce souvenir.
Oui, par exemple. Oui.
Évidemment, Patrice Delbourg.
Moi, j'emmènerai au Blomov en cure de thalassothérapie à Marrakech.
Oh là là. Ah bah oui.
Il saura montrer comment vraiment se détendre, comment parler aux autochtones et comment fumer le narguilé sans quitter son pouf.
Mais il en a à perdre, hein, au Blomov, encore plus que vous.
Pas tant que ça.
Non ?
Pas tant que ça. Ça lui va bien, en tous les cas.
Odile Conseil.
Moi, je partirai avec Mary Poppins à la plage. Elle aurait évidemment son fameux sac de voyage, d'où elle sortirait un porte-manteau pour y accrocher nos habits, des draps de plage, des maillots de bain. Comme il y aurait trop de monde sur la plage, elle rangerait d'un coup de baguette magique tous les touristes, qui dans leur voiture, qui dans leur appartement, exactement comme elle le fait avec les jouets et les vêtements qui traînent dans la chambre des enfants. Et bien évidemment, après ça, on irait faire un tour de manège et les chevaux s'en détacheraient pour aller galoper dans les champs.
Ce serait beau, mais oui, beau, oui. Mais beau. Et vous chanteriez ?
Oui.
C'est à vous, Pascal Fioretto.
Je rêve d'un court séjour à Davos avec Hans Karlstorp.
Ah oui.
Le héros de La Montagne Magique de Thomas Mann. Alors d'abord, parce qu'il faudrait que je lui dise qu'il arrête de fumer. Déjà, première chose, quand on se fait traiter pour des problèmes pulmonaires, bon, quand même, il serait bon de faire attention. Et puis, je voudrais prendre le bon air sur son balcon, profiter des 5 repas qui sont offerts par le sanatorium, dont le fameux goûter au chocolat bien moussu, la brioche à volonté, et éventuellement palabrer le soir avec Settembrini, le positiviste pacifiste, et lui dire que, bon, peut-être que le XXe siècle ne sera pas à la hauteur de ses espérances.
Tuer les illusions. Patrice Delbourg.
Moi, j'emmènerais Poil de Carotte dans un circuit gastronomique.
Ouais.
Cycle, relais et château. C'est vrai, parce que ce petit-là, il doit se remplumer. Il a un teint de papier mâché. On lui voit les côtes. Un peu de luxe ne nuit pas. Surtout à cet âge-là.
C'est vrai, ça fait pousser.
Oui, ça fait pousser.
Vous dites le conseil, vous emmenez une ou un personnage.
Je me fais emmener par Phileas Fogg et pour un peu plus longtemps qu'un week-end, parce que en fait, j'adorerais faire le tour du monde en 80 jours exclusivement par voie de terre ou de mer. Et on emmènerait aussi Serge Joncourt, qui ne prend jamais l'avion. Ça lui ferait certainement très plaisir.
Ah oui, là, il va s'inscrire. Lucas.
Bah, la jeune fille qui essuie les verres derrière le comptoir, je l'emmènerais bien voir la mer. Puis après, on irait dans une grande surface et je lui offrirais un petit lave-vaisselle.
Comme il est généreux.
Je passerai volontiers un week-end à Étretat avec Arsène Lupin pour visiter enfin l'aiguille creuse et puis apprendre au passage 2 ou 3 choses sur l'art et la manière de cambrioler avec élégance. Ça peut toujours servir.
Bon, il est très demandé, hein, Arsène Lupin. Lucas, vous, Lucas Fournier.
Très léger. Un week-end à Cherbourg avec les demoiselles de Rochefort.
Les deux.
Oui.
Seaside, whenever you stroll along with me, I'm merely contemplating what you feel inside. Meanwhile, I ask you to be my Clementine. You say you would if you could, but you can't. Oh, I love you madly. Let my imagination run away
with you gladly.
Brand new angle, highly commendable.
Seaside rendezvous.
I feel so romantic.
Can we do it again?
Can we do it again?
Sometime.
I like fantastic.
C'est la vie, mesdames et messieurs.
Mesdames et messieurs.
And at the peak of the season, the Mediterranean.
This time of year,
it's so fashionable.
I feel like dancing
in the rain.
Can I have a volunteer?
Just keep right on dancing.
What a damn jolly good idea.
Jolly good idea.
It's such a jollification, as a matter of fact.
So Trisha, mom, my dear.
Ooh, ooh, ooh.
Oh, underneath the moonlight, together we sail across the sea,
reminiscing every night.
In time, I ask you to be my Valentine.
You say you'd have to tell your daddy.
You'd have to tell your daddy.
You'd have to tell your daddy.
If you can, I'll be your Valentino. We'll ride upon an omnibus and then
the casino.
Get a new facial, start a sensational seaside rendezvous.
So adorable.
Seaside rendezvous.
Ooh,
seaside rendezvous.
Give us a kiss.
Ooh, ooh.
Seaside rendezvous. A cappella. Passez un bon dimanche avec les papous dans la tête de France Culture. À suivre, un état de choses à la première personne du singulier. En effet, qui mieux que les objets qui nous entourent et partagent notre quotidien pourrait parler de l'état de choses? À quoi pensent-ils? À quoi rêvent-ils? Leur monde est-il si éloigné de celui des humains? Où éprouvent-ils les mêmes sentiments, allégresse, détresse, stress? Un objet se raconte, c'est Jacques Vallée qui l'imagine. Ensuite, eh bien, nous aurons les points de vue des autres, ses collègues de travail, avec Odile Conseil, Lucas Fournier, Véronique Brindeau et Jacques Jouet. Avant tout, Jacques Vallée, qui êtes-vous ?
Un ballon.
Oh ben, écoutez.
De quoi ?
Mais vous allez voir de quoi il s'agit, c'est pas n'importe quel ballon.
Ben non, il y a la place pour tous les ballons dans le cœur de Jacques Vallée. Moi, je pense à un certain ballon. Oui. On verra si j'ai raison.
Un ballon de rouge ?
Exactement, oui.
Non, c'est pas ça. Non, c'est bon. Non,
alors, non, votre petit ballon, votre gros ballon s'exprime.
Oui, une soliloque. Destin ou hasard, j'ai été choisi pour être le ballon de la finale de la Coupe du Monde.
Oh là là.
J'appartiens à la famille des brazucas. C'est ainsi qu'on nous a baptisés à cause de notre décoration qui rappelle les bracelets brésiliens. Mais moi, j'ai un ornement spécial, vert et or, évoquant les deux couleurs du trophée du mondial. Je suis unique. On m'a baptisé Brazuca Final Rio, c'est-à-dire le roi des brazucas. Parfois, j'ai un étrange sentiment d'altérité qui me fait douter du réel. C'est un état d'exil, comme si, avec cette apparence lisse et ronde, sans aspérité, je ne pouvais pas avoir de prise sur mon existence. Mais mon véritable moi, c'est le jeu. Aussi, je me vois déjà porté comme le Saint-Sacrement par l'arbitre du match lors de mon entrée dans le stade. Je ne vous cache pas que je sentirais battre mon polyuréthane à l'unisson de la poitrine de celui qui officie. Peut-être essaiera-t-il de me tranquilliser, à moins que ce soit moi qui lui souffle bon match. Je suis surtout impatient de retrouver les pieds des joueurs, les souliers, les crampons.
Mais ça doit faire mal quand même.
J'adore les coups, c'est
ah
dans
bon,
mes gènes.
Oui,
de génération en génération, on est un peu maso dans la famille.
Ah bon, oui.
J'ai hâte de me jeter dans la mêlée, de connaître la rapidité, la fluidité, la virtuosité et la force, la précision, les éclairs de génie. Mais ce grand soir, j'espère ne pas m'ennuyer. L'enjeu est si important, chacun voudra me conserver pour que l'adversaire se découvre. Alors, on doit se lasser des allées et venues sur le terrain. On remonte, on descend, on croise, on zigzag, on remonte, on descend. Heureusement, je vais connaître l'excitation des coups de pied arrêtés. On m'essuie avec le maillot. On me place avec délicatesse et brusquement, splatch ! On me shoote comme une brute. Je file à plus de 100 km/h. Ah, j'aime. Mais là, je ne peux pas dire que je resterai neutre. Il ne suffit d'un rien pour qu'au dernier moment, je frôle une tête, je flirte avec un poteau. Allez savoir ce que je ressentirai à ce moment-là. Bientôt, les yeux de la planète seront fixés sur moi. On pourra admirer ma solidité, mon rebond, ma souplesse. Voyez-vous, j'ai dans mes rêves des décennies de gloire.
Il est touchant, hein. Mais est-ce qu'on lui a expliqué qu'il n'y avait pas qu'un seul ballon au cours d'un match ?
Ah ben, il y en a un qui servira quand même.
Il y en a un seul à la fois.
Il y en a un seul à la fois.
Il y en a un seul à la fois, mais c'est une question que je me suis toujours posée. Combien ils sont au départ, au début du match ?
De ballons ?
Oui, ils en prévoient plusieurs.
Ils sont 22.
22 ballons ? Bon, Lucas Fournier, je sais que vous êtes plutôt fan de ballons ovales que de ballons ronds. Mais je sais aussi que vous connaissez plein d'histoires sur le sport et sur la grande histoire, l'histoire de France, la vraie, la belle. Vous nous racontez ?
Lors de la finale de la Coupe de France 1967, Sochaux-Lyon, le ballon est allé dans les tribunes et atterrit dans la tribune d'honneur. Et quelqu'un l'a capté et l'a passé à la personnalité qui était dans les tribunes ce jour-là, qui était le général de Gaulle, qui a fait une remise en jeu, qui a repassé le ballon sur le terrain.
Alors ça, c'était un ballon glorieux.
Bah, ouais. Il n'a pas fait de bêtises, alors, ce jour-là.
Ce jour-là, il y avait De Gaulle et un ballon.
Oh
oui. C'est quoi ?
Non, c'est trop mignon comme histoire, non. Trop mignon. Odile Conseil, vous avez un point de vue sur cette vie de ballon. Enfin, c'est pas n'importe quel ballon. Hein. Le ballon Jacques Vallée est un ballon spécial. C'est le ballon de la finale du mondial. Vous êtes quelqu'un dans sa vie ou quelque chose ?
Je suis quelque chose qui est amené à le rencontrer puisque je suis une chaussure de foot.
Ah, une seule.
Une seule.
À crampons moulés ou non moulés ?
Eh bien, nous envisagerons cette question juste un peu plus tard. Alors, les autres disent que j'ai de la chance, de la veine, un bol d'enfer. Chaussures de Lionel, merci. Messi. Ouais. Fouler la pelouse sous les vivas et les hurrahs, tous les yeux braqués sur moi. Mais moi, voilà, je suis pas trop foot. Les crampons, moulé ou pas, c'est pas mon truc. Et puis le paysage est très moyen. Là où je suis, tout ce que je vois, ce sont des brins d'herbe taillés recta, pas un qui dépasse. Et si je lève les yeux, que vois-je ? Le mollet de Massy.
Mais si, le mollet de Massy et pas les os, oui, de Massy.
Oh là là.
Donc son mollet avec une chaussette verte, puis son genou poilu, puis sa cuisse qui s'enfonce dans l'obscurité d'un short. Tu parles d'un spectacle. Quand j'ai su que je serais...
Écrit comme ça, c'est quand même assez excitant. Hein, bien dit.
Non, pour moi, c'est très très moyen.
C'est très excitant.
Mais... Parce que quand j'ai su que je serais une chaussure, je me rêvais en chaussure de marche. Ah. Foulant les sentiers des douaniers au bord de la mer, avalant les GR, explorant les pistes du désert. Une vie aventureuse, quoi, mais sans violence. Parce qu'il paraît qu'ici, on nous fait donner des coups. Mais je ne veux pas, moi. Je suis une chaussure non violente. Tiens, le voilà qui se met à courir. Il se sert de moi pour pousser le ballon. Aïe, mais aïe ! Il tape, il court encore, il approche du but. J'ai peur.
Ah là là ! Ah non, mais elle joue petit bras, la chaussure, à mon avis.
Mais elle est non violente,
oui, elle,
quoi.
Elle s'est trompée
Pensez
de destin.
Pensez à Gandhi, c'est le Gandhi de la chaussure.
Ah oui, je suis sûre que Jacques jouait à une vie plus exaltante, non ? Copain du ballon ou pas ?
Je suis le crâne chauve de l'arrière qui a reçu le ballon depuis le début de sa carrière 6343 fois. De façon volontaire, hein, c'est pour repousser le ballon plus loin,
ouais.
Le plus loin possible, en touche, ou alors dans les pieds d'un partenaire de préférence.
Mmh. Pour marquer le but, éventuellement, non ?
Un arrière, c'est assez rare, mais ça peut arriver.
Écoutez, au Mondial où la France a gagné,
c'est pas
y a
des informations très récentes sur le football, oui. Mais oui. Quand je jouais au football, les arrières marquaient rarement des buts, sauf dans son camp, de temps en temps.
Et maintenant, c'est de plus en plus.
Oui.
À chaque choc...
Non, mais je suis d'accord, Jacques Vallée, souvent, il n'y a que qui marque même.
Ouais, c'est possible, je sais pas.
Oui, mais c'est vrai, Lilian Thuram n'avait marqué deux buts en demi-finale.
Lino Ventura ?
Oui.
À chaque choc, j'ai perdu quelques cheveux. Et j'ai aussi ébranlé quelques neurones de ma cervelle. Le ballon et moi, on se connaît bien. Il adore mes coups, j'apprécie ses visites. Il y a une chose dont je rêve et qui n'arrivera jamais. Qu'au lieu de rebondir au loin, poussé par ma tête, on appelle ça faire une tête, le ballon s'aplatisse sur moi comme une crêpe ou comme un béret basque.
Ou un œuf au plat.
Ou un œuf au plat. Je pourrais me lécher les babines.
Ouais.
C'est le public qui en ferait une tête.
Ah oui, ce serait amusant ça, oui. Parfaitement.
Ce serait amusant, mais c'est assez, là encore assez peu, aussi peu probable... de marquer un but. Je ne crois pas du tout à ce qu'il raconte sur les arrières qui débutent.
Mais Lucas Fournier s'y connaît très très bien en foot. Il s'y connaît mieux en rugby. Mais enfin, il a raison, les arrières marquent des buts. Les avants sont un peu timorés maintenant. Alors, Véronique Brindeau, on a eu le point de vue sur le ballon, de la chaussure, du crâne d'un arrière. Vous êtes qui, vous ?
Alors moi, je suis le filet dans la cage.
Ah, le fameux qui adore.
Oui, qui l'attend.
Qui tremble de plaisir ou de désir. Ah.
Le filet est l'avenir du ballon rond. Sa raison d'être, son but ultime.
Oui.
Toutes ses feintes, toutes ses passes, ses allers-retours sur le terrain n'ont qu'un but, me retrouver.
Un but.
Ah. Eh oui.
D'un joueur qui se met à marquer de nouveau... Et à faire gagner son camp, ne dit-on pas qu'il retrouve le chemin des filets ?
Oui.
C'est à l'instant précis du contact entre le ballon et ma toile que se déclenche la clameur de la foule qui vibre et exulte. La prochaine fois que vous regarderez le ralenti pendant les rediffusions, voyez comme je vibre moi aussi, en silence.
Ben c'est vrai, c'est... C'est presque classé X, hein, ce témoignage.
Très touchant.
Oui, oui, oui. Oui.
En fond.
Oui, c'est vrai que ça tremblote toujours un petit peu, un filet. Hein.
Ça vibre. Ça,
oui, c'est plus joli que trembloter, vous avez raison, c'est plus élégant. Alors, Lucas Fournier, vous qui avez le souvenir de cette image de De Gaulle renvoyant le ballon sur la pelouse un jour.
Oui, et le souvenir d'un arrière qui s'appelait Marius Trésor, qui a marqué un but au stade mythique... du Maracana, je m'en souviens parce que j'y étais.
C'est à Rio.
C'est à Rio, Maracana, c'est le grand stade de Rio, c'est le stade qui accueille la finale de la Coupe du Monde de football. Et j'y étais parce que je suis le poteau de corner du stade de Maracana.
Non.
Si.
Et vous êtes toujours en place ?
Et oui, et de là où je suis, dans mon coin, alors personne ne fait attention à moi. Hein. Et alors, les ballons volent, s'envolent, on les vole. Moi, je reste bien planté dans la bonne terre du Brésil, la terre de l'avenir, comme le disait Stefan Zweig. Les joueurs passent, se font des passes, se dépassent. Les joueurs s'en vont, je demeure. Vous voyez que vous aimez le foot, hein. Les spectateurs agitent leurs drapeaux sang et or, ciel et azur.
C'est beau.
Et avec les trois autres poteaux de corner, nous n'agitons rien. Notre drapeau reste blanc et pur. Nous sommes la paix. Et puis là-haut, il y a le Christ du Corcovado qui nous regarde. Et pendant les matchs, il me sourit. Moi, le poteau, je suis pieux.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba.
Manu Chao, la vie est une tombola. Et si j'étais Maradona, et oui, quel programme. Vous écoutez France Culture, les papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, la dissertation du dimanche et le DLA, ou diagnostic littéraire à l'aveugle, avec Eva Almassi, Lucas Fournier, Jacques Vallée et Hervé Letellier. Vendredi 4 juillet, les résultats du bac 2014, vous tremblez tous. Et pour ceux qui seraient au rattrapage ou s'apprêteraient à repiquer une année, ça peut arriver, je propose la dissertation du dimanche, un moment de récré philosophique avec Patrice Caumont, Patrick Beignet et Hervé Letellier. Bon, Patrice Caumont a rédigé un petit sujet de dissertation philo pour deux candidats qui sont habitués à repasser le bac d'année en année au papou, Hervé Letellier et Patrick Beignet. Et ce sujet est très papou puisqu'il s'appuie sur une vraie fausse citation dont Patrice Caumont ne donnera que deux mots. À Hervé et à Patrick de montrer leur imagination en inventant la citation à partir des deux mots, bien sûr, et puis en traitant le sujet proposé à partir de leur citation. Imagination et philosophie devraient faire bon ménage. Et comme Patrice Caumont n'a pas oublié qu'il enseigna jadis la philo à des élèves de terminale, il fera une vraie fausse correction de leur copie. Patrice Caumont, dans la peau du vrai faux professeur de philo, on écoute votre sujet.
Dans une lettre du 12 juin 1714, donc il y a presque trois siècles, en réponse à Dortus de Méran, Malebranche écrit: la 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 la, crampon, la 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 la, la forme, la 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 la. En vous appuyant sur les textes philosophiques du programme, mais aussi sur votre expérience et vos lectures personnelles, vous essaierez de définir la forme, de développer en quoi la forme pose question, et de répondre à l'interrogation « De quoi la forme est-elle la forme ?»
Bon, alors, si on a lu Malebranche, ça ne doit pas être si compliqué, non ? Patrick Beignet, vous connaissez bien ?
Je connais bien Malebranche.
Oui, donc à l'aise.
Spécialement sa correspondance.
Ah,
tout va bien.
Très bien, Hervé Letellier.
Oui, pas de problème.
Et la forme, le crampon ?
J'en ai un. Il paraît que j'en ai pris un petit peu aussi.
Allez, bah, travaillez, dissertez.
«
Chacun travaille à sa façon, selon son style. Patrick Beignet presque couché sur sa copie. Hervé Le Tellier avec plus de distance. La dissertation de philo des papous n'est pas chose facile, d'autant qu'ils n'ont pas 4 heures pour travailler, mais une petite demi-heure. Et le temps file sous le regard narquois de Patrice Caumont. Patrick Beignet, Hervé Le Tellier, vous avez donc planché tous les deux sur un bon, solide sujet proposé par Patrice Caumont, qui s'appuyait sur une citation de Malebranche, dont il nous a livré deux mots, crampon et la forme. J'ai envie de commencer par le candidat Hervé Le Tellier.
Oui. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas, n'est-ce pas ? C'est une bonne idée, ça soulage le candidat Patrick Beignet. Et donc j'aimerais vous demander de rétablir, mais en les imaginant, les mots qui se trouvent entre la forme et crampon.
Alors c'est une phrase de Malebranche assez peu connue, qui d'une certaine façon annonce, je crois, le darwinisme. Et c'est assez intéressant. On se dit parfois, dit Malebranche, que c'est le crampon qui adopte la forme d'une griffe, alors que c'est en réalité la griffe qui adopte la forme du crampon. Et oui, certes, dans l'esprit du père Malebranche, c'est sans doute l'ingéniosité de Dieu qu'il faut remercier pour la griffe, mais il n'empêche que dans cette magnifique formule, il inverse la pensée naïve où l'homme d'un objet dit naturel, la griffe, ferait naître un outil fonctionnel, le crampon, pour aller vers une réflexion quasi-évolutionniste où la nature, dans son fonctionnement darwiniste, justement, fait émerger un outil, la griffe, d'une fonction et mieux d'un concept, le crampon. Notons que dans sa réponse, Dortout de Méran répond ceci. Certes, mais si les œufs avaient une autre forme que la forme d'œuf, ils auraient malgré tout la forme d'œuf.
Ah oui.
Oui. Alors, c'est pas faux.
L'examinateur se bidonne.
Alors, qu'est-ce que la forme ?
Qu'est-ce
que la forme ? Lorsque Satie écrit ses morceaux en forme de poire, il soulève une question fondamentale, celle de notre incapacité à attribuer une forme à un objet qui ne saurait par son aspect s'en rapprocher d'une autre. Alors, ça va, vous êtes en forme ? C'est une question, oui, mais en forme de quoi ? Est une réponse possible de Pierre Dac, puisqu'on m'a demandé de citer des lectures personnelles. La forme, c'est donc ce qui emprisonne, ce qui moule. Marcel Duchamp disait « la forme de la moule et le moule de la forme », ou à peu près. Ce qui devait, on le sait, inspirer Salvador Dali, puisque qui dit moule dit mollusque, et que la mollesse du mollusque, vient détruire la forme, tout évidemment en la renforçant, en la magnifiant, en la transcendant. La forme molle de la montre molle, dit la montre, bien mieux que la montre elle-même ne le ferait, elle appelle au souvenir de la forme initiale, mais fondue justement, et la fondue elle-même est la destruction de la forme, du formaggio, du fromage formé, dont la fonte est un engloutissement. Il faut toujours boire du fondant en regardant un tableau Dali, dit une formule classique de Genève. Quand la neige fond, où va le blanc ? Écrivait, dit-on, Shakespeare. Mais quand le flocon fond, où va sa forme ? Car ce que dit le flocon, c'est que la forme existe hors du regard, indépendamment d'une conceptualisation, tout comme la Terre est une sphère après avoir été un disque lamellaire. La forme pose question, dit l'énoncé. Et la question de la forme est importante. C'est pourquoi cet exposé adopte la forme presque invisible d'un croissant posé sur une assiette ronde, mais sous un certain angle seulement, tout comme une craie peut, selon notre position, apparaître comme un cercle ou comme un rectangle. La forme est donc une question de point de vue. Ainsi, pour m'appuyer sur mon expérience personnelle, comme il est écrit dans le texte, de face, je n'ai pas beaucoup grossi, mais ce n'est pas le cas de profil. J'ai donc pris une forme de profil qui n'est pas ma forme de face. Ce qui nous amène, pourrait-on dire à la dernière partie, de quoi la forme est-elle la forme ? Eh bien, et ce sera ma conclusion, car sinon cet exposé n'aurait plus la forme d'un croissant sur une assiette ronde. Cela dépend de la forme. Par exemple, le zéro a la forme d'un trou, mais le trou a aussi la forme d'un zéro, ce qui nous ramène à Malebranche, à la question initiale et à ma note potentielle pour cet exposé.
Pas très optimiste, non. Hervé Le Tellier. Patrice, comment vous avez ri ? Vous vous êtes gratté la barbe ? Il y a eu des moments différents dans cet exposé,
oui,
qui vous ont un peu interpellé.
Il y a eu des moments différents qui correspondent en fait à l'inégalité de cet élève, qui est souvent brillant,
Oui, c'est vrai.
J'ai eu en cours d'année. Quoi.
Oui.
Mais il passe du 2 au 18.
Ah oui.
C'est-à-dire, c'est un penseur de l'extrême.
Ah, oui.
C'est le Gaston Rébuffat de la pensée. C'est un grimpeur, mais qui peut très bien dévisser au moindre jeu de mots et s'effondrer au plus bas. Alors, c'est vrai que les morceaux en forme de poire et Satie, c'était fabuleux. C'était le satisfecit absolument.
Oui,
satisfecit. Et là, c'était fabuleux. Et alors après, des petites erreurs de départ, mais des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on ne boit pas du fondant avec la fendue.
Oui.
Mais du fendant avec la fondue.
Fondue.
Donc là, c'est un peu dommage, il pourrait se relire quand même.
Ouah, et puis, petite erreur.
Sa notion de crêpe rectangulaire est une notion un peu sauvage et révolutionnaire.
Mais de profil. De profil.
Mais c'est ça.
C'est un tout petit rectangle, mais elle est de profil.
C'est une ligne d'horizon.
C'est presque une ligne d'horizon.
Comme
la ligne d'horizon est un rectangle.
Bah, c'est-à-dire qu'elle est quand même un peu épaisse, la crêpe, sinon il n'y a pas de crêpe sans
enfin,
crêpe.
Écoutez, tout va très bien. Moi, je vous aurais mis 18 si, au lieu de citer Darwin, qui était un petit peu loin de Malebranche, vous étiez contenté de Bernadette Saint-Pierre, qui aurait très bien dit que la griffe était un crampon de Dieu. C'était
oui.
plus près de nous, quand même. Pas besoin d'aller dans le darwinisme. Donc, je mettrai que 17.
C'est excellent.
C'est pas si mal, c'est pas si mal, je pensais pas.
Étant donné que votre fourchette va de 2 à 18, aujourd'hui 17, c'est très bien.
C'est bien. Non, il a compris le sujet. Je dis pas qu'il l'a traité, mais il l'a compris.
Mais c'est déjà énorme, et c'est ce qu'on demande aux élèves.
De nos jours, c'est ça.
17, bon, bah alors il va falloir...
Oui, mais enfin 17 sur 64.
Ah, c'est pas du tout la même chose.
Ah non, j'ai appliqué le coefficient.
Je suis un peu déçu. Mais enfin bon, c'est vrai qu'il y a un petit coefficient dessus. Ouais.
Oui. Bah,
je pense après, à la gym, je suis assez bon.
Non, c'est vrai.
À la corde à sauter, oui.
Bon, bah, Patrick Béni avait commencé à pâlir à l'annonce du 17, mais le 17 sur 64 le rassure, parce qu'il sait qu'il a fait mieux, non ?
Oh non, non, non.
Ah non.
Moi, je suis régulier, contrairement au candidat précédent, mais régulier, c'est le 2 tout le temps. De 2 à 18.
Alors, relisez-nous bien l'exposé du sujet et la citation telle que vous l'avez inventée.
Dans une lettre du 12 juin 1714, en réponse à Dortoud de Méran, Malebranche écrit « Je suis guéri, j'ai tout ressorti, mon survêtement, mes chaussures à crampons, les ballons, les raquettes. Oui, j'ai retrouvé la forme et je suis un autre homme. » Ces phrases exaltées posent bien des questions relatives à la forme.
Voilà. Relisez-nous le sujet, quand même, à traiter.
En vous appuyant sur les textes philosophiques du programme, mais aussi sur votre expérience et vos lectures personnelles, vous essaierez de définir la forme, de développer en quoi la forme pose question, et de répondre à l'interrogation de quoi la forme est-elle la forme. Voilà. Alors, j'ai eu un gros problème avec ce sujet. C'est ce que les auditeurs, malheureusement, ne peuvent pas comprendre, que les mots « la forme » sont toujours en italique.
Ouais.
J'ai toujours peur de l'italique et je n'ai pas compris exactement pourquoi il y avait de l'italique là-dedans.
Donc on remarquerait que dans la question finale,
oui.
seul le premier, la forme,
c'est vrai.
Est en italique. Mmh. C'est donc qu'on distingue de quoi la forme est-elle la forme.
Oui. Eh bien, j'ai rien compris.
Ça. Oui. Non, c'est un peu pointu.
C'est pour ça que j'ai choisi.
L'italique sert à isoler en général un concept.
Voilà.
Ah, on ne m'a jamais appris ça.
Il n'a pas compris. Allez-y.
On a souvent, de la fin du règne de Louis XIV, une vue austère, comme si la France d'alors était peuplée de vieillards à perruques parlant gravement en alexandrin. Rien de plus faux, comme le montre cette lettre de Malebranche à Dortoud de Méran. Je suis guéri, j'ai tout ressorti, mon survêtement, mes chaussures à crampons, les ballons, les raquettes. Oui, j'ai retrouvé la forme et je suis un autre homme. Ces phrases exaltées posent bien des questions relatives à la forme. Comment définir la forme ? C'est une adéquation parfaite entre le corps et l'esprit. Se sentir bien dans sa peau, ça va de soi et c'est là tout le problème parce qu'on n'éprouve pas le besoin de réfléchir sur un état qui nous paraît si naturel. La forme, c'est quand on a fait l'exercice, qu'on mène une vie saine, ni tabac, ni drogue, ni alcool, 8 heures de sommeil, une alimentation contrôlée, n'abuser ni du sucré, ni du salé, ni des corps gras. Tout ça semble aller de soi, et le fait même de se poser la question, de définir la forme, ne peut venir que d'un esprit malade, d'un homme à problème. En ce sens, je pense qu'il y a une opposition entre la forme et la philosophie. Un philosophe ne peut pas être en forme, sans quoi il ne philosopherait pas. Et un philosophe qui ne philosophe pas est-il encore un philosophe ? Se demandait un jour Maine de Biran, à qui je pense toujours quand il est question de Malebranche. Deuxième point. En quoi la forme pose-t-elle question ? Ça me paraît mal posé. Mieux vaudrait dire que la forme permet de vous poser un tas de questions qu'on peut ramener à une seule. Alors, t'es en forme ? Ça va, la forme ? Mais la forme en elle-même ne peut poser question qu'à un esprit malade. On y revient. La vraie forme, c'est l'ignorance des questions. Quand on est en forme, on ne se pose pas de questions. Tous les grands sportifs vous le diront. Quant au troisième point, de quoi la forme est-elle la forme ? C'est un stade de délire encore plus avancé. On sent bien que si on trouvait la réponse à cette intéressante question, quelqu'un surgirait et vous demanderait « De quoi la forme de la forme est-elle la forme ?» Nous aurons la pudeur de ne pas y répondre.
Oui. Bon, il y a une petite ellipse à la fin. Hein. Mais enfin, le sujet est traité ou pas ? Patrice Caumont.
Cet élève est accablant.
Ah bon, à ce point ? Oh, vous êtes sévère.
Mais il était premier en littérature en français toute sa carrière, jusqu'en première.
Oui.
Et en classe de philosophie, c'est deux. Il l'a dit d'ailleurs.
Il l'a dit, oui.
C'est deux toute l'année. C'est épouvantable. Alors là, devant le 2, je rajouterai un 0. derrière le 2, pardon. Pour faire un 20. Sur 60.
Ah, hein, nous avez fait peur.
Toujours sur 60.
Donc, 20 sur 60.
Mais c'est pas mal.
Oui.
Non, il n'a voulu traiter que la forme physique et sportive.
Oui.
Car en fait, comme tous les littéraires, comme tous les souffreteux et comme tous les écrivains, ils pensent que le penseur est malade, que l'écrivain est malade, et ils pensent que l'homme en bonne santé ne peut pas écrire, ne peut pas penser.
Il faut souffrir pour
enfin,
créer.
L'homme en bonne santé, ça donne Monterland, donc c'est comme il veut. Donc voilà, moi je dis 20 pour justement cette nouvelle question qui se refuse de traiter, qui pour moi ouvre un champ nouveau, c'est effectivement... De quoi la forme de la forme est-elle la forme ? Rien ne fait d'avoir osé penser ça prouve que cet élève, qui a de fortes chances, mais je lui conseille de passer directement en fac et de faire lettres tout pur et de ne pas continuer
dans la philo.
Dans la philosophie.
Oui. Bon, écoutez, c'est pas mal. 20 sur 60, c'est un tiers, quoi.
Mais je ne suis pas très bon en calcul mental.
On peut connaître la vraie fausse citation de Malebranche ?
Pour être perçu, le fond doit accomplir certaines formalités, mais il est des formes sans fond, comme il est des semelles sans crampons. Et encore, dans ce cas, la forme possède-t-elle une causalité et une vraie finalité ? Que ne sert-elle à botter le train de l'ignorant qui méprise la forme ?
Bon, écoutez, c'est une phrase curieuse, hein, quand même. Mais vous la comprenez, Hervé Le Tellier ?
Oui, moins bien que celle que j'avais moi-même décelée chez Malebranche, mais je pense qu'en la relisant, je pourrais la comprendre.
Bon, puis vous avez des chances de retrouver le même prof l'année
prochaine. Il y a des
chances,
oui. Apparemment, de toute évidence, on va retravailler ensemble pendant un an. Oui. Ouais.
Ne m'embrassez pas davantage, mais revoyez votre visage. Vous finirez par me troubler, je finirai par vous céder et je ne veux pas vous aimer. Soyons amis, amis de courage,
oui, de courage.
J'ai tellement peu de patinage, ne me parlez pas davantage. Alors viennent se nicher de dans mon corps. Si vous saviez, je ne veux plus vous écouter. Vous, mon ami, aidez-moi davantage.
Oui, davantage.
Je me sens parti dans les nuages. Je suis à la limite et sage. Encore un peu et je vois tout danser. Mon corps en devient fou. Je sens qu'il sera très jaloux. Je vous en prie, encore un peu de courage.
Oui, de courage.
Kazuko Oki, pas davantage. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, le diagnostic littéraire à l'aveugle. Eva Almassi tend un piège à tous les joueurs du DLA. Nos experts, bien sûr, Lucas Fournier, Jacques Vallée, Hervé Le Tellier, et vous tous qui jouez à notre écoute et qui souvent nous racontez après vos hésitations. Eva Almassi a donc déniché dans un livre de sa bibliothèque un petit bout de littérature dont il faudra découvrir l'auteur en argumentant naturellement. Le plaisir de ce jeu, c'est la réflexion. Et même si elle débouche sur une erreur, c'est elle qui est savoureuse à écouter. Réflexion n'est pas jeu de hasard. En seconde chance, eh bien Eva proposera trois noms d'écrivains. Gagneront, gagneront pas, en tout cas, Lucas, Jacques et Hervé se battront pour y parvenir. Eva Almassi, on vous écoute, vous nous faites la lecture de ces quelques lignes en jeu.
Hermann rentra dans sa chambre et écrivit aussitôt toutes les circonstances de sa vision. Deux idées fixes ne peuvent exister à la fois dans le monde moral. De même que dans le monde physique, deux corps ne peuvent occuper à la fois la même place. Trois, sept as effacèrent bientôt dans l'imagination de Hermann le souvenir des derniers moments de la comtesse. Trois, sept as ne lui sortaient plus de la tête et venaient à chaque instant sur ses lèvres. Rencontrait-il une jeune personne dans la rue ? Quelle jolie taille, disait-il, elle ressemble à un trois de cœur. On lui demandait l'heure, il répondait, sept de carreau moins un quart. Tout gros homme qu'il voyait lui rappelait un as. Trois, sept as le suivaient en songe et lui apparaissaient sous maintes formes étranges. Il voyait des trois s'épanouir comme des magnolia grandiflora. Des sept s'ouvraient en portes gothiques, des as se montraient suspendus comme des araignées monstrueuses. Toutes ses pensées se concentraient vers un seul but. Comment mettre à profit ce secret si chèrement acheté? Il songeait à demander un congé pour voyager. À Paris, se disait-il, il découvrirait quelques maisons de jeu où il ferait en trois coups sa fortune. Le hasard le tira bientôt d'embarras.
Bon, c'est un texte charmant, plaisant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous raconte, Lucas Fournier, ce texte?
Déjà, il est facile à comprendre, enfin.
Oui.
Dans ce jeu, la difficulté, c'est souvent de...
De faire une analyse de texte.
De faire, non pas une analyse, mais de savoir ce que raconte l'histoire. Là, donc, c'est un jeune homme charmant qui s'appelle Hermann. Il a eu une relation avec une comtesse. Et il est obsédé par les trois chiffres qui vont le faire gagner au jeu de cartes.
Oui.
Et le texte se termine par une très jolie fin. Là. Le hasard le tira bientôt d'embarras. On a l'impression que c'est la fin d'un chapitre et qu'on va aborder haletant le chapitre suivant. Donc il y a une tension qui est introduite. Il y a un suspense et tout ça avec des mots simples, plutôt une économie de vocabulaire.
C'est alerte, vif.
Oui, tonique. Une petite référence horticultrice avec les Magnolia grandi.
Vous avez du mal avec les
Magnolia grandi flora, oui.
Oui, okay. À grande fleur.
À grande fleur, qui est une plante d'Amérique,
oui.
Je crois, mais qui a pu être importée en Europe, voire en Europe de l'Est, puisque notre Hermann a deux N, ça ne s'est pas entendu à la lecture.
Voilà, ça c'est un indice. Jacques Vallée, on est dans une écriture directe en français?
Je ne pense pas, je pense que c'est une traduction. Je pense déjà le héros, Hermann, il y a très peu d'écrivains français qui ont appelé leur héros Hermann, mais je pense que ça sent tout de suite un peu les pays de l'Est ou même la Russie, pourquoi pas. Et ce qui me fait penser aussi, c'est qu'à Paris, se disait-il, il découvrirait quelques maisons de jeu. Donc c'est quelqu'un qui rêve de voyager, de venir. C'est un joueur invétéré, obsédé par ces trois cartes-là, et qui voit tout à travers ces trois cartes. Sans doute, peut-être avant, a-t-il gagné au jeu à cause de ces trois cartes, ou a-t-il conquis cette comtesse à cause de ces trois cartes? Parce qu'on a l'impression que ça pourrait être des 3-7 As, ça pourrait aussi être au dé, au 4-21.
Ah oui, absolument. Mais ça peut être aussi un voyageur qui rêve de venir à Paris, mais qui habite Blois ou Angoulême.
Oh non, pas du tout. Non, non. Là, on voit que c'est loin. Il songeait à demander un congé pour voyager. Quelqu'un qui est à Tours, il ne demande pas un congé pour voyager en disant « je vais à Paris ». Il dit « je vais aller faire un tour à Paris ».
Ça dépend de l'époque. Hein.
Il prend ses RTT, mais on n'est peut-être pas à l'époque des RTT.
Là, c'est absolument impossible. Donc, c'est quelqu'un que je vois
En calèche
en Sibérie ou en... Enfin, peut-être pas aussi loin, mais que je vois quand même assez loin, oui. Et qui rêve de venir, c'est un joueur, et qui rêve de venir à Paris.
Hervé Le Tellier.
Je crois que ce qui est intéressant, c'est cette phrase « Deux idées fixes ne peuvent exister à la fois dans le monde moral, de même que dans le monde physique, deux corps ne peuvent occuper à la fois la même place. » Il y a un côté réflexion sur une sorte de morale générale du monde, très allemande, qui intervient ici et qui fait penser à Goethe ou qui fait penser à Zweig et qui vient d'un seul coup orienter toute la direction de la pensée ultérieure, ce qui est une démarche pas du tout, en fait, latine, que de commencer par une sorte d'idée pour donner ensuite un développement, alors que chez les latins, on a plutôt l'inverse, un développement très concret qui amène à une idée. Ah. Là, on est dans un système un peu inversé qui ferait plutôt penser à une écriture, disons, à l'allemande. Ouais. C'est-à-dire on donne une idée forte, chez Kafka aussi, qu'on développe ensuite par le paragraphe.
C'est très malin ce qu'il dit, Hervé Le Tellier. Vous êtes d'accord, Lucas Fournier ?
Oui, c'est très malin. D'ailleurs, sans me vanter, j'avais souligné la phrase aussi.
Moi, je vais même m'y attirer aussi.
La notion, voilà, nous sommes d'accord.
Les grands esprits.
Mais oui, mais évidemment, cette interpellation sur le monde moral, donc ça fait penser aussi à un écrivain moral qui se pose aussi moral, comme une conscience. Oui, comme, disons-le, comme une conscience. Sans faire de la morale à tout le monde, mais quand même, qui essaye de prendre un petit peu de hauteur, qui n'est pas seulement dans un préfrécis pour amuser le lecteur.
Ouais. On est dans quelle époque, Hervé Le Tellier, alors, puisque Jacques Vallée vient de nous dire que c'était quelqu'un qui rêvait d'aller à Paris et qu'il allait mettre un certain temps pour y arriver. Donc, on n'est pas à l'époque des avions, je suppose.
Non.
Enfin, pour Jacques Vallée, en tout cas.
Mais ça peut très bien être un... Bon, disons que c'est entre 1830 et 1930, puis après, bonne chance. Parce que c'est quand même compliqué, ça peut s'arrêter un peu plus loin. Mais on est dans cette...
fourchette.
Voilà, cette fourchette. En plus, les moments de la comtesse, etc., nous amènent à une époque plutôt aristocratique. En tout cas, dans laquelle l'aristocratie avait encore une importance, pas forcément... voilà.
On a tous l'impression d'avoir déjà lu ce livre,
voilà,
quand
c'est
même.
Ça,
c'est vrai.
Avec le jeune homme qui va jouer aux cartes.
Et c'est agaçant parce qu'on ne retrouve pas ce que c'est.
Pour
c'est
les beaux yeux d'une comtesse, peut-être, ou après avoir rencontré une femme extraordinaire. Et il va partir, et puis on sent bien que ça ne va pas très bien finir, quand même, de toute façon.
Ah, justement, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, Jacques Vallée, il va voir Paris un jour ou pas ?
Oui, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude, quand même, de voyager. Là, même si, là, cette fois-ci, il rêve de venir jouer à Paris. C'est quelqu'un qui a un esprit européen, disons. C'est quelqu'un de cultivé, qui vit dans un milieu de lettrés.
Oui.
Donc Paris, c'est pas le bout du monde, c'est pas l'Esquimau qui dit « un jour je me retrouverai à Paris ». J'ai parlé de Sibérie, il ne faut pas vous croire, c'est un cosaque qui tout d'un coup rêve de dire...
Il est déjà allé à Rome, par exemple,
Oui, il connaît parfaitement l'Europe, c'est quelqu'un qui a une maîtrise de lui-même, de sa culture, de ce qu'il fait, puis bon, il écrit... sans doute une nouvelle, là, je pense. Mais on sent derrière une structure assez solide.
C'est un écrivain voyageur, Hervé Le Tellier ? Genre chroniqueur, finalement ?
Non, je ne crois pas que ce soit un chroniqueur. Ça n'en fait pas pour autant un écrivain statique.
Non.
Il ne bougerait pas de chez lui. Mais on n'est pas dans une chronique. Je pense qu'on est dans un roman plus ample. Enfin, dans une nouvelle ample, oui. Peut-être. Ouais. Peut-être une nouvelle assez ample. Je dirais 70 000 signes.
Oui, quelle police.
Voilà.
Et traduite de l'allemand.
Moi, je vois un texte allemand, mais je peux tout à fait me tromper. Hein. Je vois un texte allemand. Ce n'est pas seulement à cause des portes gothiques.
Et de Hermann, qui est quand même évidemment un piège.
De Hermann, qui est un piège.
Ça peut faire suisse, Hermann.
Voilà. Alors, il y a juste une petite question. Et il voit une jeune femme dans la rue. Il dit « Quelle jolie taille, elle ressemble à un trois de cœur. »
Ouais. C'est bizarre comme forme féminine.
Alors, je m'interroge sur la forme d'un trois de cœur.
Bah, c'est-à-dire, il pense plus au cœur.
À la taille, à la taille.
Les cœurs, ça ferait comme deux seins.
C'est vrai, une taille vraiment très fine,
à
corseter. Donc, c'est une époque du corset.
Non, mais le cœur renversé, c'est les fesses.
Ah bon ?
Ah ben oui, mais là, oui. Quelle jolie taille.
Le cœur, c'est...
Alors, quelle jolie taille, il veut dire quelle jolie fesse.
Pourquoi pas,
ça change un peu la nature du jeune homme et... Et sa façon d'appréhender la jeune femme, non ?
Vous n'avez jamais vu
des quoi ?
Des caricatures avec des cœurs qui font à la fois les...
Non, mais...
non, on ne doit pas lire les mêmes choses chaque année. Voilà. Vous avez déjà vu ça, Eva ?
Des cœurs en forme de fesses.
Des cœurs renversés.
En forme de cœur renversé, j'ai vu.
Il y a ça un petit peu dans certains dessins de Roland Topor, c'est vrai.
Peut-être, mais d'autres aussi.
Non, mais ça permet de dater le corset quand même.
Oui, je pense qu'elle a la taille étranglée. Elle a la taille
très étranglée. Donc, oui.
donc on est toujours
ah oui, on est bien
1830, 1930, comme disait Hervé Le Tellier. 1930, il me semble que les femmes ont jeté leur corset aux orties. Ah oui,
c'est l'époque où elles les ont jetées, justement. Ouais. Donc on est un petit peu avant, quoi.
Oui.
Avant la Première Guerre mondiale, par là.
Oui. Ça, c'est intéressant. Jacques Vallée, c'est écrit aussi en allemand pour vous ?
Je ne peux pas le dire. C'est peut-être. Ça peut être en russe.
Oui.
Et ça peut être en autrichien.
En autrichien. Ouais. Réécoutons le texte, Eva Almassi.
Hermann rentra dans sa chambre et écrivit aussitôt toutes les circonstances de sa vision. Deux idées fixes ne peuvent exister à la fois dans le monde moral, de même que dans le monde physique, deux corps ne peuvent occuper à la fois la même place. 3-7 as effacèrent bientôt dans l'imagination de Hermann le souvenir des derniers moments de la comtesse. 3-7 as ne lui sortaient plus de la tête et venaient à chaque instant sur ses lèvres. Rencontrait-il une jeune personne dans la rue? « Quelle jolie taille, disait-il, elle ressemble à un 3 de cœur. » On lui demandait l'heure, il répondait « 7 de carreau, moins un quart. » Tout gros homme qu'il voyait lui rappelait un as. 3-7 as le suivaient en songe et lui apparaissaient sous maintes formes étranges. Il voyait des 3 s'épanouir comme des magnolias grandiflora. Des 7 s'ouvraient en portes gothiques. Des as se montraient suspendus comme des araignées monstrueuses. Toutes ses pensées se concentraient vers un seul but. Comment mettre à profit ce secret si chèrement acheté? Il songeait à demander un congé pour voyager. À Paris, se disait-il, il découvrirait quelques maisons de jeu où il ferait en 3 coups sa fortune. Le hasard le tira bientôt d'embarras.
Oui, alors 3-7 as, à quoi il joue le joueur ?
Oui, mais
c'est pas du poker, c'est quoi comme jeu ?
Il y a une chose qui est, ben je ne sais pas, ça peut être le 4-21.
Ce sont des dés, 4-21,
avec un 7.
Avec un 7 de cœur. Avec un 7 de cœur.
Là, il a des dés pipés, Jacques
Vallée. Ah oui, non, mais c'est
pas... Non, 3-7 as, il joue à quoi, Hervé ?
Ah, je ne sais pas, ça peut être...
On ne sait pas, mais ça serait important de savoir à quoi il joue.
Aucune idée.
Lucas.
Il joue dans une maison de jeu, en tout cas. Donc, il y a.
Et puis, il y a quelque chose de mystérieux.
Non, parce qu'il joue peut-être au gin rummy.
Non, mais il ne joue pas au bridge, quoi.
Auquel cas, ça peut se passer aux États-Unis. Non ?
Oui, mais alors, des États-Unis, aller à Paris, à cette époque-là, c'était beaucoup plus. Il fallait prendre le bateau.
Surtout pour jouer. Pour jouer, c'est quand même beaucoup d'efforts.
Oui.
Donc, c'est quand même 15 jours de traversée.
Oui. Donc, ça ne marche pas. C'est un beau voyage. C'est pour ça, comme le disait Jacques Vallée, que ça ne peut pas se situer à notre époque.
Alors que,
il fallait du temps.
Mais oui, alors qu'en 1914, les trains, certains trains roulaient déjà à 100 km à l'heure.
Oui, mais pas entre les États-Unis.
Non, mais en Europe. Voilà.
Oui, Jacques Vallée.
Il y a une dimension qui est ressortie à la deuxième lecture, c'est cette phrase « Comment mettre à profit ce secret si chèrement acheté ?» Donc il y a quelque chose d'assez mystérieux, c'est un secret, donc c'est peut-être cette formule 3-7 as, c'est quelque chose qu'on lui a révélé, c'est peut-être...
C'est une martingale.
Mais peut-être, oui, ça donne une autre dimension au passage, c'est pas simplement quelqu'un qui rêve, mais c'est quelqu'un qui a acheté un secret, et il dit avec ça, s'il vient à Paris... où il ferait en 3 coups sa fortune.
3-7 as.
Donc ça veut dire qu'il a acheté un secret. Il y a une autre dimension dans ce texte qu'un simple récit ou une simple nouvelle, mais il y a une dimension un peu fantastique. C'est un peu un conte. Un conte de, d'Hoffmann ou de gens comme ça. Ça peut être un... qui raconte quelqu'un qui a acheté au diable, peut-être. C'est une histoire de diable.
C'est une formule magique.
Il a acheté une formule magique. Et ça, c'est venu comment mettre à profit ce secret si chèrement acheté. C'est pour quelque chose, là.
On a peut-être la réponse, un élément de réponse. Hermann avait le souvenir des derniers moments de la comtesse. Les derniers moments de la comtesse, ça veut dire qu'elle est probablement morte.
Qu'elle est morte.
Donc,
oui.
Ce secret si chèrement acheté, c'est probablement parce qu'il a tué la comtesse.
Oui, ou alors il a offert la comtesse au diable en échange.
Et donc, comme Hervé l'a justement souligné, c'est un auteur moral, entre guillemets. Son histoire doit, le récit qui est là, doit avoir une morale aussi, doit nous conduire à une morale.
Hervé, ce serait quoi la morale
jouer,
de
c'est
l'histoire.
Pas bien de jouer, quoi, la morale.
Ah, oui. c'est mal. C'est mal.
Vous avez quelque chose à ajouter sur le texte, Hervé?
Je pense que je peux revenir en arrière sur l'idée que c'est traduit.
Ah bon?
C'est pas forcément traduit.
Oui.
Si c'est traduit, c'est bien traduit, mais il n'y a pas une nécessité. On peut imaginer aussi, par exemple, c'est pas du tout du Maupassant, ça je suis sûr de ça, mais on pourrait imaginer chez Maupassant, par exemple, qui, je crois, est un auteur moral, un texte dans lequel on avancerait une idée qui ensuite est précisée par justement cette opposition entre les trois états.
C'est votre théorie.
Ma théorie. Mais malheureusement, toutes les théories sont faites pour être mises en cause en littérature. Donc je ne vois pas très bien de qui c'est pour l'instant, mais je pense que c'est quand même un auteur français.
Oui.
C'est un très bon auteur, parce qu'il y a une simplicité dans l'expression qui marque le portraitiste. Voilà. Tout gros homme qu'il voyait lui rappelait un as. C'est très simple.
Magnifique.
Et en même temps, c'est très précis. Non, je pense que c'est un auteur français alors et qui est un auteur du 19e.
Oui, ben on se rapproche.
On se rapproche. Et...
Oui. Jacques Vallée, dernier petit mot avant de lâcher un nom.
Je réfléchissais à quel auteur français pouvait...
Écrire ça.
Oui, il pouvait écrire ça. Il y a pas mal d'auteurs fantastiques, mais pour l'instant, je n'ai pas d'intuition là-dessus.
Oui.
Vous avez
une intuition sur un auteur étranger?
Ben, pour l'instant, j'aimerais bien écouter mes camarades.
Ah. Alors, ils sont tous très lâches, c'est moche. Donc, c'est vous, Lucas, qui allez attaquer avec un nom.
J'ai écrit un nom, et puis en réentendant le texte, je vois que le style ne correspond pas au nom que j'ai écrit.
Ah, c'est dommage, bête.
Ben oui, parce que j'ai écrit Stéphane Zweig, parce que tout à fait une nouvelle de Stéphane Zweig.
Ouais.
Mais une écriture aussi simple et efficace n'est pas tout à fait celle de Stéphane Zweig, qui s'épanche davantage quand il écrit. Alors,
Vous passez votre tour,
non,
vous aussi?
Non, je dirais Stéphane Zweig, mais avec la conscience que ce n'est pas le bon. C'est pas mal, comme...
C'est
pas mal, mais c'est 10 sur 20, quoi.
Oh, Hervé Le Tellier, peut grimper à 12 avec vous.
Je pense que c'est pas Zweig.
Non,
vous venez de nous dire que c'était français.
Que c'est plutôt français, mais alors peut-être un auteur aussi simple que Flaubert, dans les contes.
Il avance sur la pointe de ses chaussettes.
Oui, oui. L'expérience prouve qu'on peut se tromper dans ce jeu, ça arrive.
Ah, mais oui. Voilà.
Justement, dans un cœur simple, elle joue aux cartes. Oui. Et un 3 de cœur.
Et ce serait la belote, quoi.
C'est une belote.
On est en France.
Belote, oui. Voilà.
Jacques Vallée.
Mais j'ai mis, comme mes camarades, Zweig en premier. Je ne vais pas y rester non plus. Donc, si c'est Zweig, c'est un gros triomphe
de Lucas.
Et puis, je vais avancer Pouchkine.
Alors, un petit argument pour
La comtesse.
Oui. Pour la comtesse, pour le côté de venir à Paris, pour le côté... Il a aussi un peu de fantastique chez lui. Je pense à l'As de pique ou à des choses comme ça.
D'accord,
à des
évidemment,
comme ça.
La dame au petit chien.
La dame au petit chien.
C'est Tchekhov, la dame au petit chien.
Oui, c'est Tchekhov, oui. La dame au petit chien.
Eva Almassi, on vous propose un Stéphane Zweig, pas convaincu de Lucas, mais enfin, il n'a pas mieux. Un Gustave Flaubert d'Hervé Le Tellier, ma foi.
Très convaincu.
Comme toujours avec Hervé, il a d'abord imaginé que c'était une traduction, puis il est revenu. Il a changé d'avis. Il change beaucoup d'avis, Hervé, à ce jeu.
C'est pas fini.
Il lui arrive de gagner, quand même. Hein. Et Jacques Vallée propose Pouchkine. Alors, est-ce que vous avez une liste de trois noms? Est-ce qu'un de ces noms figure dans votre liste?
Ah ben, mieux deux des noms figurent. C'est très, très rare.
Flaubert?
Moi, j'ai comme nom Prosper Mérimée, Alexandre Pouchkine et Stéphane Zweig.
Ah là là! C'est pas facile, ça. Alors,
en fait,
Mérimée, Pouchkine, Zweig. Donc, Lucas avait parlé de Zweig et Jacques Vallée de Pouchkine. Lucas Fournier.
N'allons pas nous dédire.
Vous restez sur Stéphane Zweig. Et Jacques Vallée, il change d'avis, non?
Non, mais j'avais mis les deux, mais je reste sur Pouchkine.
Très bien, c'est un homme acharné, Jacques.
Voilà. C'est là qu'on voit que c'est injuste. Parce qu'ils sont coincés. Ils sont coincés avec leur Pouchkine et leur Zweig.
Mais oui.
Alors que moi, j'ai une grande liberté. Que je vais d'ailleurs utiliser pour dire, mais évidemment, Prosper Mérimée. Je
ne
sais même pas comment j'ai pu ne pas voir dès le début que c'était Prosper Mérimée. Et là, c'est un point facilement gagné. Mais c'est normal que mes camarades ne puissent pas, maintenant qu'ils se sont avancés sur des idées qui étaient très bonnes, se dédire. Voilà.
Eh bien oui.
Eh bien oui.
Alors, Stéphane Zweig pour Lucas Fournier jusqu'au bout. Alexandre Pouchkine pour Jacques Vallée jusqu'au bout. Prosper Mérimée pour Hervé Le Tellier. Et ça, c'est nouveau. Ça a du chic.
C'est l'outsider.
Et donc
alors, d'abord, je dois dire que le jeu, c'est le jeu de Pharaon.
Ah, oui. Très bien, merci. Alors, et je ne sais pas jouer.
C'est possible, alors.
J'ai un très grand gagnant, mais j'ai presque un gagnant et demi. Je m'explique, Jacques Vallée a été brillantissime depuis le début, nouvelle fantastique écrite en russe, et le nom de Pouchkine, bien sûr, c'est pas As de Pique, c'est la Dame de Pique. Picovaya Dama en VO, mais c'est un texte de Prosper Mérimée puisqu'il est le traducteur de la nouvelle.
Oh
et
là
donc
là.
On a un gagnant et demi.
Oh, je sentais bien le style de Mérimée, néanmoins.
Ah non, mais trop fort, Hervé Le Tellier. Ouais, et comme par mégarde, quoi. Comme par accident.
Mais Lucas, par contre, a quasiment raconté la nouvelle. Il a tué la comtesse. Bien sûr, c'était involontaire. Donc, il y avait un peu du diable là-dedans. Parce que cette comtesse avait la vision des jeux gagnants. Mmh. Et donc, il veut lui extirper son secret. Mais à sa vue, surgit comme ça la nuit, la comtesse meurt. Et lui, il va mourir très moral. Enfin, ça a été quand même très bien dit de la part d'Hervé Le Tellier. Et le côté Zweig, il faut mourir quand on est un joueur, il faut se suicider. Alors, lui, il ne se suicide pas. Il gagne sur les deux cartes qui se dévoilent. Donc, il y a bien, alors quelles étaient ces cartes ? 3, 7 de carreau. Mais quand il attend l'as, au lieu de ça, c'est la dame de pique qui lui rappelle la comtesse et il meurt foudroyé, le pauvre.
Moi, je suis très impressionnée par Jacques Vallée, mais je suis toujours très impressionnée par Jacques Vallée dans la vie.
Vous remarquerez qu'il y a quand même une distance un peu plus grande entre Moscou et Paris qu'entre Tours et Paris.
Je n'avais pas dit Tours, j'avais dit Blois ou Angoulême.
Ouais, mais c'est encore pire.
Et je suis éblouie par Hervé Le Tellier qui sent vraiment le faire exprès.
C'est tout le charme
propose
de la
chose. Propose le traducteur de Pouchkine,
Mérimée. C'est
magnifique.
Encore plus prodigieux.
Oui, parce que le texte est de Mérimée. Ce texte-là que j'ai lu, je n'ai pas lu Picovaya Dama, j'ai lu La Dame de Pique.
Mais j'aurais tout de suite reconnu Pouchkine. En fait, là, Mérimée perce tellement dessus.
Ils sont éblouissants, tous les deux.
Oui, je suis très fière.
Lucas, il faudra revenir.
Merci.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressart avec Pierre Mine et Franck Lilin. À retrouver sur franceculture.fr pour le téléchargement pendant un an. La réécoute directement sur votre ordinateur, tablette ou autre pendant 1000 jours à la page des papous dans la tête. Et puis promenez-vous dans les pages vie du club et les livres des papous pour découvrir les spectacles, ateliers d'écriture ou de chansons, expos et nouveaux livres des écrivains de la bande. Des livres à emporter en vacances comme nos 36 fesses et 6 pour des papous dans la tête et une coédition Carnet Nord France Culture. Au revoir, dans quelques instants, place à Tire ta langue par Antoine Perrault. Passez un très bel après-midi à l'écoute. Tiens,